de Radio Classique avec David Abiker.
Il est 9h moins quart à peu près, c'est l'heure d'Esprit Libre avec Christophe Barbier, éditorialiste, écrivain, dramaturge, comédien, et Lucie Robquin, comme chaque mardi, Lucie Robquin, rédactrice en chef aux Échos. Bonjour tous les deux.
Bonjour David.
Merci d'être avec nous aujourd'hui comme chaque mardi. Inondation, bourrasque, tempête, grêle, au mieux parlera-t-on d'aléas climatiques, au pire de catastrophes naturelles. Le coût des sinistres climatiques a doublé en 4 ans pour atteindre 6,5 milliards contre 3,7 milliards en 2019. Quelle conclusion en tirez-vous? C'est un sujet qui vous intéresse dans l'actualité. Ça concerne beaucoup de Français qui sont victimes de ces intempéries.
Mais oui, il y a de plus en plus de tornades, de tempêtes, d'inondations. On l'a encore vu ce week-end en Bourgogne. Et effectivement, ça coûte de plus en plus cher aux assureurs. 2023 a été l'une des pires années de leur histoire. Alors face à ça, il y a trois réponses possibles. La première, c'est évidemment d'augmenter les tarifs des assurances. C'est ce qu'ils vont faire cette année, mais ils ne peuvent pas le faire de manière démesurée. La deuxième, et ça c'est plus inquiétant, c'est de refuser d'assurer. On le voit aujourd'hui aux États-Unis où les assureurs commencent à ne plus vouloir prendre de nouveaux clients en Californie, en Floride, parce qu'il y a trop de tempêtes. C'est vraiment un paradis nouveau. Et la troisième réponse à cela, c'est de vouloir réformer l'assurance. Alors évidemment, quand ça va pas, on a souvent envie de faire appel à l'État. Certains voudraient faire de l'État un assureur en dernier ressort. C'est évidemment très compliqué, compte tenu de ses finances publiques. Et puis par ailleurs, ça déresponsabilise un peu tout le monde. Le vrai enjeu derrière ça, c'est de réformer l'assurance, c'est-à-dire de faire plus de prévention. Il faut construire plus de digues, il faut suivre l'exemple, par exemple, de pays comme le Japon qui ont pris beaucoup d'avance sur nous sur ces aspects-là. La France a du retard. Elle doit revoir ses normes de construction. C'est l'objet d'un rapport qui sera publié aujourd'hui, le rapport Langrené. Il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là.
Christophe.
Elle est là la quatrième solution. Si on ne veut pas augmenter les primes indéfiniment, si on ne veut pas retourner à une sorte de Moyen-Âge où la cahute du paysan n'était pas assurée, pas plus que la soupente du travailleur canu au 19e siècle, il faut investir. Il faut investir. Si on investit comme on le fait sur terrain sismique où désormais les normes antisismiques sont obligatoires, si on investit dans des constructions qui doivent résister aux aléas climatiques des temps à venir, eh bien, c'est autant d'argent qu'on économise puisque ce sont des primes d'assurance en moins et des remboursements de dégâts en moins pour les décennies qui viennent. Donc, il faut investir. C'est vrai de l'État qui doit changer les normes et éventuellement investir. C'est vrai aussi des particuliers. C'est aussi l'épargne des particuliers qui devra se tourner vers ce type d'investissement.
La difficulté est que l'aléa climatique n'est pas le seul aléa auquel sont soumis les assureurs. Et chaque acteur français a du mal à s'assurer. Aujourd'hui, les entreprises n'arrivent plus à s'assurer contre les cyberattaques parce qu'on ne sait pas du tout évaluer des scénarios de cyberattaque. On ne sait pas faire de probabilité sur ce danger-là. Les collectivités locales non plus n'arrivent plus à s'assurer contre les émeutes. On ne sait pas prévoir les dégâts que peuvent provoquer des émeutes. On voit donc que ça dépasse le seul enjeu des particuliers et ça, c'est tout à fait inquiétant.
Parlons adaptation. Est-ce que la France peut s'adapter au risque de la même façon qu'aujourd'hui il y a un pic sur le coût des sinistres? Est-ce qu'on peut faire baisser ce pic parce que on se sera adapté, parce que des risques sont réduits dans d'autres domaines de l'assurance qui font qu'à un moment donné, on peut équilibrer financièrement les pertes?
Eh bien oui, il va falloir s'adapter. Je vais vous parler de ma Haute-Savoie natale. Les paysans construisaient leurs maisons dans des endroits où les avalanches ne tombaient pas. Après 1945, les résidents secondaires sont arrivés, les touristes sont arrivés, ils se sont dit mais quelle bande d'idiots ces paysans, ils ont laissé les champs où il y a le plus de soleil sans habitation. On va construire là. Et puis voilà, il y a des avalanches, il y a des tempêtes et c'est leurs maisons qui sont touchées. Donc il faut revenir à une sorte de sagesse où l'homme doit en effet s'adapter à quelque chose qui est plus fort que lui, mais qu'il ne doit pas renoncer à dompter, qui s'appelle la nature.
Le paradoxe, c'est que l'adaptation est presque un gros mot pour les écologistes. C'est-à-dire que c'est pour eux une forme de capitulation et l'idée qu'on n'arrivera pas à ne pas dépasser ce fameux seuil de plus 2 degrés par rapport au passé. Lorsque Christophe Béchu a dit « il faut s'adapter à un monde à plus 4,5 degrés », les écologistes ont dit « c'est un scandale, il faut avant tout lutter contre le changement climatique ». On voit donc qu'il y a vraiment une difficulté et un changement d'état d'esprit à imposer à l'ensemble des Français.
Ça s'appelle la résilience, c'est ça? C'est un mot à la mode, la résilience.
La résilience est pour moi un mot assez négatif. C'est-à-dire on subit quelque chose et puis on essaye de se refaire une santé, on essaye de faire un travail de deuil. Non, c'est plus que de la résilience, c'est de l'imagination, c'est de l'innovation, c'est le génie humain.
L'Allemagne innove et vient de légaliser le cannabis pour un usage récréatif. Grosse fête hier devant la porte de Brandebourg. Visiblement, il y a des gens pour qui le cannabis est aussi essentiel que la moutarde ou le vin. La vente en boutique spécialisée sera légale dans 3 mois. Qu'est-ce que vous en dites? Progrès ou échec face à une population occidentale qui vit sous tranquillisant, sous calmant, sous euphorisant, sous antidépresseur et qui a donc besoin de la résine?
tout ce qui, de toute façon, légalise ou rend banal une addiction, que ce soit les médicaments, le cannabis ou l'alcool et le tabac, c'est finalement un échec. C'est un échec de ce que devrait être la nature humaine, c'est-à-dire se débarrasser des addictions et pas les favoriser. Néanmoins, ce qui se passe là, en Allemagne, n'est pas la vente libre où chacun pourrait rentrer dans n'importe quel échoppe et acheter son joint. Non, ce sont des clubs auxquels il va falloir adhérer, qui vous donneront droit à une certaine quantité par mois, pas plus. Et pour les jeunes, à des taux de THC, c'est-à-dire la puissance addictive très faible, je pense que ça ne sera ni une déferlante de fumette dans les rues, d'autant que beaucoup de zones sont interdites de tabagisme au cannabis, notamment près des écoles, mais je pense aussi que ce n'est pas ça qui fera reculer le trafic. Parce qu'on voudra toujours des substances plus fortes, on voudra du cannabis dur, et on ira toujours les chercher dans les trafics. Je pense pas que ce modèle allemand, à la fois berlinois, c'est-à-dire la tolérance sur les mœurs, et en même temps très germanique, c'est-à-dire on réglemente chaque détail, il y a des points précis pour chaque aspect, je ne pense pas que ça soit un modèle à suivre pour la France.
Il y a un cannabis dur et il y a un cannabis mou.
Mm-hmm. Oui, il y a un cannabis mou.
J'y connais rien. Hein,
c'est bah, oui, c'est le taux de THC, voilà, c'est comme vous aviez des cigarettes avec très peu de
ça marche aussi pour la résine.
Il a beaucoup augmenté au cours des 20 dernières années, justement parce que le cannabis. Je ne suis pas experte non plus, hein, je vous rassure. Il a beaucoup augmenté récemment parce que le cannabis est illégal et que du coup on vend des choses de plus en plus mauvaises, de plus en plus sales. Moi, là où je diverge un peu avec Christophe, c'est que je pense que la prohibition a rarement eu des effets vertueux sur la société. On se souvient, la prohibition de l'absinthe avait provoqué un réseau de contrebande et puis finalement on est revenu à l'autorisation de l'absinthe. Je vois quand même plusieurs avantages à cette légalisation. D'abord, il est économique. Hein. Moi, je viens des Échos, je vous en parle. En France, si on légalisait le cannabis, ça apporterait 2 milliards de recettes fiscales à l'État. C'est absolument considérable et ça permettrait de légaliser 50 000 emplois. C'est considérable. C'est un vrai domaine économique.
Et si on légalise la cocaïne, ça rapporte combien à l'État?
Voilà,
si on peut aller loin comme ça.
C'est l'argument imparable, bien sûr. Je pense qu'il y a un problème majeur, notamment pour la France, si on légalisait le cannabis, c'est que ça fait vivre des quartiers entiers et que ça déstabilise énormément la société française. Ce sera en fait un transfert de richesse d'une certaine catégorie de population à une autre. C'est très dangereux. Et là aussi, il y a une solution, Christophe. Il y a une solution qui a été établie à New York que je trouve absolument passionnante. C'est que le business du cannabis légal a été réservé aux anciens délinquants. Seuls ceux qui avaient été condamnés pour détention de cannabis ou commerce de cannabis ont le droit d'ouvrir un business.
Ah, c'est astucieux, ça.
C'est la seconde chance. C'est le pardon américain. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop en France.
Et puis des gens qui sont déjà formés.
Si je puis dire.
Distribution,
oui.
Marketing, mode d'emploi, ils savent
Mais
faire.
Il y a aussi une forme de réparation sociale, mm-hmm. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les Noirs et les Hispaniques ont été beaucoup plus arrêtés que les Blancs sur ces questions de cannabis, beaucoup plus que ce que représente leur consommation de cannabis. Il y a donc cette idée qu'il faut réparer cette injustice. Voilà, on en est très 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 loin en France, mais je trouve que l'idée est intéressante.
Est-ce qu'il n'y a pas une capitulation face à l'air du temps, Christophe Barbier? Alors, c'est un peu réac ce que je vais vous soumettre, mais finalement, faute d'avoir empêché les Occidentaux d'absorber toutes sortes de substances pour se calmer, pour se déstresser, pour lutter contre le burn-out, l'angoisse, le vide existentiel. Eh bien, allez, on y va pour le CBD. Il y a des boutiques partout maintenant dans Paris. Et puis, ça ira aussi pour le cannabis.
Même si CBD, c'est différent du cannabis, et cannabis, bien entendu, différent des drogues dures. Oui, il y a un peu de cela. C'est-à-dire que, est-ce que le droit doit guider la société ou est-ce que le droit doit suivre la société? Pour l'instant, on est dans une phase où le droit suit la société. La société réclame des évolutions, et notamment celle-là, et le droit va finir par y aller, ça se réglera un jour par une élection où il y aura une majorité pour ce fait. On peut s'en réjouir parce que c'est la démocratie finalement, et si l'opinion, si le peuple veut aller dans cette direction, pourquoi l'interdire? Mais ça donne aussi des arguments à nos ennemis. C'est ce qui permet à un Poutine de dire, voyez, l'Occident décadent, c'est nous qui sommes le vrai rempart contre la barbarie. Donc faisons attention à cela. On peut très bien avoir une société qui légalise le cannabis et qui reste une société droite, une société rigoureuse, mais attention, c'est pas forcément un bon signe, notamment pour les jeunes.
Vous en avez fumé, vous, tous les
jours,
du cannabis?
Non,
c'est une question indiscrète.
Jamais, parce que pour deux raisons. D'abord, c'est illégal, donc je ne le fais pas, je respecte la loi républicaine. Et ensuite, j'ai tellement vu de mes amis être ridicules, avoir le ciboulot ramolli, être dans des états pas possibles pour avoir fumé de ces cochonneries, que ça m'a jamais donné envie. Il me faisait tellement pitié que je me disais, c'est vraiment le contraire qu'il faut faire.
Lucie Robka, c'est une cause d'accident, enfin, c'est une cause accidentologique, le cannabis aujourd'hui. Peut-être peut-être autant que l'alcool au volant, les gens qui ont fumé du cannabis risquent des accidents de la route.
Bien sûr, tout à fait. Après, je crois qu'il est difficile d'interdire quelque chose qui est autorisé chez nos voisins. Alors, en Allemagne, l'utilisation du cannabis sera interdite pour les touristes. Ça ne va pas devenir Amsterdam, loin de là. Mais je pense que malheureusement, la France aura du mal à tenir cette position longtemps si ses voisins ne la tiennent pas. Par ailleurs, je note qu'au Canada, qui a légalisé le cannabis il y a déjà quelques années, les résultats sanitaires ne sont pas si mauvais que cela. Ça, officialiser le cannabis, c'est aussi permettre de faire des campagnes de prévention très actives à l'égard de la jeunesse, qu'on ne fait pas aujourd'hui parce que c'est soi-disant interdit.
On ne pourra plus assurer les conducteurs qui fumeront du cannabis.
Voilà, on revient au sujet des assurances.
Il y a un auditeur qui nous envoie un message et qui dit « Mais vous ne parlez pas de tous ces calmants et déstressants prescrits sur ordonnance, etc. »
Toutes les addictions sont à regarder avec précaution et à combattre.
Ça peut rendre service. Alors après, les risques naturels, les risques du cannabis, c'est peut-être les opportunités pour assainir un marché qui fabrique de la délinquance. Les risques politiques de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Vous avez 30 secondes, Christophe Barbier, pour nous expliquer le micmac de l'avenir politique de ces 270 000 habitants et de la façon de les faire voter qui est problématique aujourd'hui et qui provoque des tensions dans l'archipel.
En 1999, une loi a gelé le corps électoral calédonien. C'est-à-dire qu'on a décidé que ne pourraient pas voter au référendum sur l'autodétermination et à des élections locales tous ceux qui n'étaient pas déjà installés avant. Donc ceux qui sont nés là-bas depuis 1999 ou qui se sont installés depuis, votaient aux législatives ou à la présidentielle, mais ils ne votaient pas pour le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Les trois référendums ont été perdus par les indépendantistes. On remet les compteurs à zéro. Une nouvelle loi électorale doit être adoptée aujourd'hui par le Sénat et on requalifie, si j'ose dire, environ 25 000 électeurs dont 12 000 sont nés là-bas et ne pouvaient pas voter. Sauf que les indépendantistes ne veulent pas. Ils voudraient garder un corps électoral ancien, si j'ose dire, qui les favorise plus. Et ça crée des tensions localement. Ils en appellent à un médiateur qui s'appelle Édouard Philippe, qui a fait un voyage récemment là-bas, qui a toujours marqué comme Premier ministre son intérêt pour la Nouvelle-Calédonie. On voit revenir le spectre des affrontements des années 80, et néanmoins, on ne peut pas avoir des sous-citoyens de Nouvelle-Calédonie qui, parce qu'ils ne sont pas nés il y a 30 ans, ne pourraient pas voter.
En même temps, faire appel à un médiateur quand on n'est pas d'accord, c'est un signe de grande maturité politique.
Voilà, c'est ça. Non, mais il y a deux écueils dans cette affaire. C'est déjà, les indépendantistes et les loyalistes sont irréconciliables. Ça date depuis les années 80, depuis le drame d'Ouvéa de 1988. La deuxième chose, c'est qu'une réforme constitutionnelle, ça doit être adoptée par les 3-5 au Congrès, et que, à part l'IVG, Emmanuel Macron a échoué sur toutes ses réformes constitutionnelles. Donc, malgré l'exposé brillant de Christophe Barbier, je pense qu'on aura encore de longues années de négociations.
Mes amis, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on négociera ensemble quelques sujets à exposer et à discuter avec nos auditeurs. On va se quitter avec Serge Gainsbourg. C'est aujourd'hui l'anniversaire de sa naissance. Gainsbourg est né un 2 avril 1928. Vous savez que Gainsbourg s'est beaucoup inspiré de la musique classique pour composer. Exemple avec Baby Alone in Babylon, interprété par Jane Birkin. Ça vient de la symphonie numéro 3 de Johannes Brahms.
Babe alone in Babylon, noyée sous les flots de Pontiac, de Cadillac, de Bentley. Elle est de Rolls Royce et de briques dans la nuit.